Qu'il l'eût cru, avec Des idées plein la terre, une émission qui parle de terre crue, mais pas que.
Voici notre rendez-vous comme chaque mois sur RJR et sur Radio Primitive. C'est avec plaisir que je retrouve Mélanie Guerche. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Aujourd'hui Mélanie, tu nous proposes de rencontrer Valentine Maquin. Qui est Valentine, Mélanie?
Alors Valentine, c'est notre coprésidente. Elle est coprésidente de l'association des idées plein la terre depuis plusieurs années déjà, mais elle est aussi et surtout maçonne terre crue. Elle a une formation d'architecte et elle est partie pendant quelques années en Bretagne et on a le plaisir de la voir revenir sur le territoire. Et elle va nous expliquer comment construire en terre crue.
Bonjour Valentine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission. On va présenter les caractéristiques de la terre crue dans la construction, parce que c'est toujours un peu l'objet de cette émission, c'est un peu le fil rouge. Mm-hmm. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu donc effectivement de ton parcours. Tu es architecte de formation, maçonne en terre crue, tu t'es formé en Bretagne. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus sur ce projet de participation à une formation en Bretagne.
De base, je suis architecte de formation. J'ai travaillé quelques années à Reims en cabinet d'architecture et c'est en échangeant avec les acteurs des idées plein la terre que j'ai découvert qu'il y avait de la terre crue sur le territoire, que c'était un matériau hyper pertinent pour la construction d'aujourd'hui, mais que malheureusement il y avait très peu de professionnels sur les territoires et même on va étendre ça à la France. Même s'il y a des territoires où il y a un élan qui est un peu plus prononcé déjà. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me former sur ce sujet. Et comme il n'y avait pas de centre de formation dans le coin, ouais, je suis partie en Bretagne, où il y a deux centres de formation qui dispensent la formation maçon terre crue.
On peut d'ores et déjà donc se dire qu'en Bretagne, ils ont pris un train d'avance.
Tout à fait. Ça se base aussi parce qu'il y a un patrimoine aussi présent là-bas. Et il y a peut-être à la fin du XXe siècle eu un premier élan qui a mieux pris que sur le territoire champenois. Ça part pas mal du bâti ancien, l'élan qu'il y a eu en Bretagne sur ce sujet. Des associations qui ont valorisé le patrimoine en terre et les professionnels qui travaillent dessus, qui ont développé, voilà.
Alors, à ce jour, c'est pareil, il y a encore beaucoup de constructions neuves avec de la terre crue.
En effet, voilà, donc quand on est maçon terre, soit on travaille sur du bâti ancien, soit sur du bâti neuf. Il y a de plus en plus de bâtiments publics, par exemple, qui sont construits en intégrant de la terre. Donc actuellement, ça reste quand même beaucoup de seconde œuvre, donc des cloisons en terre, des cloisons en torchis, en adobe, ou des enduits, ou des correcteurs thermiques. Mais on recommence à connaître ce matériau de mieux en mieux et on va commencer à voir des constructions porteuses en terre. Il y a des exemples, par exemple autour de Rennes, en banlieue de Rennes, une école actuellement qui se construit en terre porteuse.
Tu t'es formé donc à Éco-Bâtisse.
Exactement, Éco-Bâtisse. C'est un centre de formation près de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Donc la formation maçon terre crue, c'est une formation professionnalisante sur 8 mois, où on va apprendre les bases de la maçonnerie. Déjà, construire un mur d'aplomb, de niveau, tirer une dalle, faire des enduits, créer une ouverture dans un mur, mmh, avec la spécificité des techniques de terre crue. Et notamment, la principale spécificité, c'est de connaître le matériau. Et il faut savoir, quand on est maçon terre, c'est qu'on ne va pas travailler avec un matériau industriel, contrairement à la majorité des maçons qui vont travailler avec des produits en sac. Là, chaque chantier va être différent parce que le matériau est différent sur chaque site. Mmh. La terre est différente partout. Et donc, le maçon terre, il va à chaque chantier refaire des essais, refaire des tests pour connaître la granulométrie de son matériau et voir comment l'amender en eau, en fibre, en minéraux pour en faire un matériau constructible.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut se l'approprier, il faut faire connaissance avec la terre locale, quoi.
Exactement.
Ok. Donc ça, c'est une des règles à comprendre. Formation maçonne terre crue, ça représente quoi pour toi? C'est quoi, en fait, qui est important pour toi dans cette formation?
C'est la connaissance de ce matériau et les différentes techniques. Donc, mm-hmm, en terre crue, on va avoir je vais dire trois catégories de techniques de terre crue. Il va y avoir les techniques de porteuse,
oui.
Les techniques de remplissage et les enduits. Mm-hmm. Donc, si je peux un peu expliquer ces différentes techniques. Donc, dans les techniques porteuses, ça va être vraiment les techniques où la terre va porter la charpente et la toiture. Donc, on a deux grandes techniques qu'on va appeler monolithiques parce que les murs se tiennent d'un seul bloc. Ça va être la bauge et le pisé. Bauge qu'on va plutôt retrouver dans le nord, nord-ouest de la France, donc Bretagne, Normandie, Picardie, puisqu'elle met en œuvre une terre qui est un peu plus humide. Mmh. Un peu plus mouillé, on va dire, plus plastique, un peu texture pâte à modeler. Et le pisé, lui, va avoir une granulométrie, il va être mis en œuvre avec une granulométrie différente et une humidité un peu moindre. Et donc, tout simplement, qui va se retrouver plus dans le sud de la France, région Auvergne-Rhône-Alpes, autour de Toulouse.
Oui.
Parce que la terre est plus sèche et mise en œuvre plus sèche.
Une mise en œuvre plus sèche, forcément, dans ça va aussi avec le climat, j'imagine.
Exactement, c'est exactement ça.
Ouais.
Et on peut retrouver ces techniques aussi en petits éléments, donc ça va être de la maçonnerie de briques. Donc pour la bauge, on va avoir des briques de terre qui vont être des adobes ou des carreaux de terre crue. On en a pas mal parlé dans d'autres émissions.
Évidemment.
Donc on en a sur le territoire. Et pour le pisé, ça va être des briques de terre qu'on va appeler BTC, briques de terre comprimées. Donc voilà, ça c'est pour les techniques de terre porteuse. Après, on a les techniques de remplissage, donc où cette fois, c'est une ossature qui va être porteuse et la terre va venir remplir. Donc traditionnellement, c'est des ossatures en bois, mais on peut en trouver en métal aussi, ou on peut avoir du remplissage entre maçonnerie. La technique la plus connue sur le territoire ici, c'est le torchis. Donc tout le monde voit à peu près ce qu'est le torchis. C'est cette terre visqueuse avec de la fibre dedans. Un dérivé de cette technique qui est plus contemporain, c'est la terre allégée, qui va être une technique avec plus de fibres, donc qui va apporter plus d'isolation que la technique du torchis. On peut aussi retrouver des remplissages avec des adobes, des BTC ou même des briques de terre allégée, donc maçonnerie de petits éléments en remplissage. Et enfin, la technique des enduits, donc traditionnellement, oui, l'enduit, c'est pour protéger la maçonnerie. Donc, on va donner une esthétique au bâtiment aussi. Donc, on a ces enduits-là, enduits de corps qui vont être la protection vraiment et la façon de rendre le mur plan. Et l'enduit qui va vraiment protéger, fermer la surface et donner une esthétique, une couleur, une texture au bâtiment. Et on a aussi les enduits correctifs, correcteurs thermiques, qui eux vont être intéressants par exemple dans le bâti ancien, quand on n'a pas forcément la place pour mettre une grosse épaisseur d'isolant dans le bâtiment. On va mettre un enduit, parce qu'en isolation, ce qui est important, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est les premiers centimètres qui sont importants. Donc faire un enduit plutôt que de ne pas mettre d'isolant, c'est quand même bien. Et donc ces enduits vont atténuer une sensation de paroi froide et donner du confort à la pièce.
Alors justement, ouais, toutes ces qualités que tu es en train de décrire, on a tendance à se poser la question de... Il y a beaucoup de matériaux aujourd'hui qui nous permettent d'avoir ce confort acoustique ou encore thermique. Là, la terre, elle fait tout elle toute seule finalement.
La terre, elle a plein d'avantages, c'est sûr. L'un des premiers avantages, c'est qu'elle est disponible en grande quantité sur tout le territoire par rapport à d'autres matériaux qui s'amenuisent.
Puis là, il n'y a qu'à se baisser pratiquement.
Oui, c'est ça. Elle est disponible partout. Donc, pas de transport. Mm-hmm. Donc, écologiquement parlant, c'est plutôt bien. Ouais. C'est un matériau cru, donc pas de cuisson. Donc, encore une fois, en termes d'écologie, on ne consomme pas d'énergie pour la cuire. Il y a aussi le fait que cette matière, elle est peu transformée en général, quand elle n'est pas industrialisée. Et nous, c'est ce qu'on prône avec des idées plein la terre, c'est un travail artisanal de la terre. Et surtout aussi, quand elle n'est pas amendée en ciment ou en chaux, la terre est réutilisable à l'infini. Exemple, vous construisez une paroi en torchis chez vous. Quelques années plus tard, vous avez besoin de démolir cette cloison et de la reconstruire un peu plus loin pour agrandir une pièce ou autre. Vous n'avez qu'à démolir le torchis, le remouiller et le remettre en œuvre dans votre maison. Il n'y a aucun souci.
Économie circulaire parfaite.
Exactement.
Il y a des règles de sécurité, quelque chose à savoir en particulier quand
on
travaille la terre.
La terre, elle a plein d'intérêts thermiques, etc. Mais La règle principale, c'est bonne botte, bon chapeau. La terre n'aime pas l'eau.
Oui.
Donc, faire un bon soubassement et faire des bons déports de toit pour éviter que la terre soit en contact de l'eau.
Ok, donc c'est ça en fait que ça veut dire bonne pote, bon chapeau.
Exactement, un bon soubassement et un bon débord de toit.
On protège bien sa terre.
Exactement.
Ok, on a parlé un petit peu des utilisations, tout ça. En gros, si on doit parler de manière un peu plus technique, ça ressemble à quoi si on regarde le bâtiment tel qu'il est posé?
Alors, il va y avoir plein de façons de voir la terre, donc notamment parce qu'il y a plein de techniques, dont les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, et on va avoir plein de finitions possibles. La terre, si on l'amende ou non en minéraux ou en fibres, ça va être un matériau plus ou moins massique ou plus ou moins léger. Donc un mur porteur, il va avoir des bonnes résistances mécaniques, il va permettre au moins de construire des bâtiments, par exemple, de deux étages.
C'est fou, hein, quand on y réfléchit bien, on n'imagine pas au dépannage.
C'est ça. Plus on va lui ajouter de fibres, plus il va être léger et plus il va pouvoir avoir des capacités isolantes. Juste si on utilise la terre seule, il va avoir des propriétés inertiques. Cette notion d'inertie, on en parle souvent en confort d'été. Un mur en terre, la chaleur va mettre du temps à le traverser, ce qui fait que l'après-midi, on peut avoir de grosses températures à l'extérieur. La chaleur n'arrivera dans la maison que le soir ou la nuit, moment où normalement il fait plus frais dehors et où on peut ventiler la maison et évacuer cette chaleur.
Et éventuellement retrouver de la chaleur si on en a besoin, s'il fait trop frais dehors à nouveau.
Exactement.
Le soir. C'est quand même toute la solution est là, donc comme on le redit souvent, y a qu'à se baisser, quoi.
C'est ça, c'est magique, la terre.
Est-ce qu'on a oublié des choses selon toi, Mélanie?
Alors, sur la terre, je dirais que non. Par contre, on peut peut-être donner les prochaines dates d'atelier des idées plein la terre et poser la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait voir la terre mise en œuvre. Et ben, on a une exposition qui est en cours à la Maison de la Vie Associative. Elle est en cours du 23 avril jusqu'au 7 mai. Et donc, on va pouvoir retrouver toutes les techniques dont a parlé Valentine avec des photos, un petit peu plus d'éléments graphiques. Et puis, il y aura justement des exemples de tout ce qu'on peut faire, plus des échantillons pour toucher la terre directement.
Donc, à voir jusqu'au 7 mai.
Exactement. Maison de la Vie Associative, aux horaires d'ouverture de la MVA.
Voilà, c'est super libre. En plus, on rentre, on peut venir tout de suite, aller tout de suite
c'est
là quand
on rentre.
C'est
dans le hall, ça vous accueille directement quand vous arrivez. Il y a à la fois des outils et à la fois des échantillons de terre, en plus de panneaux explicatifs et des œuvres d'art de François Schmitt et Catherine Stevenot qui attendent dans le hall les visiteurs et visiteuses qui ont envie d'en savoir plus sur la terre.
Ça, c'est cool. Autre rendez-vous à suivre?
Eh bien, si juste regarder les panneaux, ça ne vous suffit pas, et juste toucher des carreaux de terre, ça ne vous suffit pas, mais que vous voulez mettre plutôt les mains dans la terre mouillée et nous aider à construire la cabane popoétique, ce sera le 29 et le 30 avril, c'est à Cruny. On a déjà parlé de la cabane popoétique dans un podcast précédent. Et donc 29 et 30 avril, puis 16 et 17 mai, il y aura aussi des dates en juin, mais on ne les a pas encore posées. Mais là, donc, on aura la possibilité de toucher la matière directement et de mettre en œuvre. Et puis un autre projet qui est en cours avec Bronca, quartier Europe-Cernay. On monte des bancs en terre crue aussi, donc ce sera potentiellement la technique de la bauge qui sera utilisée 21 et 28 mai prochain. Et enfin, notre festival la semaine prochaine qui aura lieu du 10 au 15 juin et dans lequel on aura la possibilité de mettre les mains dans la terre. Et entre-temps, on a aussi un événement professionnel mais qui lui se passera à Pont-à-Mousson. Donc pour la région Grand Reims, c'est 10 au 15 juin, 21 et 28 mai, 16 et 17 mai et 29 et 30 avril.
Voilà.
Et tout ça, c'est sur nos réseaux sociaux, Facebook des idées plein la terre et puis notre site internet www.desidéesplein-la-terre.fr.
Bien évidemment. Merci beaucoup Mélanie, merci Valentine également pour ton témoignage, ton partage d'expérience. On se donne rendez-vous le mois prochain, hein, bien évidemment.
Avec grand plaisir.
À très bientôt.